toda palabra, con toda sonrisa.
Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission à l'air livre, aujourd'hui en compagnie de Kamel Khelif. Kamel Khelif est dessinateur de bande dessinée, il est né à Alger en 1959 et débarque à Marseille avec sa famille en 1964. Il s'installe sur les hauteurs près de Sainte-Marthe. Kamel Khelif ne fait aucune école artistique, il aime dessiner depuis son enfance les gens, les rues, les départs, les voyages, le déracinement, tout cet espace de l'exil qu'il vit à Marseille. Dans les années 1980, il s'investit dans la vie associative de son quartier et devient travailleur social. Parallèlement, il participe à de nombreuses expositions collectives et personnelles et ses dessins sociopolitiques prennent de plus en plus de place. Il fait en particulier des illustrations pour des magazines et commence à faire paraître plusieurs ouvrages. Sa démarche graphique est très particulière, ses cases sont grandes, sombres, grises, travaillées au crayon gras ou au fusain. Elle est atypique et très porteuse de sens. Il a publié plusieurs albums, le premier Homicide avec Amin Medjoub est paru aux éditions Z Éditions en 1995. Il a adapté Le Prophète d'après le livre de Khalil Gibran, également aux éditions Z Éditions en 1999. Il a participé à plusieurs albums, en particulier Les Exilés, un collectif avec un texte de Nabil Fares, et aussi La Petite Arabe qui aimait la chaise de Van Gogh, avec un texte de Nabil Fares également aux éditions Amok. Cité Brassens, Traverse de Mazout revient un petit peu sur l'ensemble de son travail aux éditions Frémok en 2002. Et son dernier album, Ce pays qui est le vôtre, aux éditions Frémok, paru en 2003, a été réalisé entièrement par lui, texte et dessin. Je retrouve Kamel Khelif en plein centre de Marseille pour une petite promenade dans ses quartiers favoris.
Secreto de ese mundo, me entrego a tus brazos.
Kamel, bonjour.
Bonjour.
On est en plein milieu du marché de Noailles.
Oui.
À Marseille. Quand je t'ai demandé si tu voulais bien accepter cette rencontre, cet entretien pour Aller Livre, tu m'as dit d'accord, et Aller Livre à ce moment-là, ça me donne envie d'aller dans ce quartier à Noailles, parce que voilà, c'est mon quartier.
Ouais, ben, c'est mon quartier donc depuis une vingtaine d'années, et c'est là où je suis tous les jours pour faire mes courses, pour prendre un café. C'est là où je passe pas mal de temps, chaque jour.
Ouais.
C'est aussi un quartier que j'ai pas mal dessiné, que ce soit dans Les Exilés, dans Homicide, et aussi dans le dernier livre « Ce pays qui est le vôtre ». Et donc c'est aussi le quartier qui me soutient depuis une vingtaine d'années.
Tu as des endroits privilégiés, des immeubles, des visages peut-être même, parce qu'il y a beaucoup de visages chez toi.
Il y a des visages ici,
familiers, tu as dessiné.
Que je vois souvent. Mais j'aime bien, disons, d'une manière générale, m'asseoir et prendre un thé ou un café, et puis et rêver comme ça, me laisser emporter par justement les visages, les voix. Disons que c'est le quartier en même temps arabe, mais c'est aussi ça que j'aime bien, c'est-à-dire un petit côté de l'Algérie qu'on retrouve ici, à travers les visages, à travers les voix, à travers ce qui se dit. Rester dans cette ambiance, ça me permet comme ça de rêver et d'être complètement ailleurs, de zapper, disons, avec le quotidien. Le quotidien d'ici.
Est-ce que c'est une façon pour toi, on peut marcher si tu veux, hein. Est-ce que c'est une façon pour toi aussi de d'être dans l'exil d'une autre manière peut-être, c'est-à-dire que tu es exilé mais au milieu d'autres exilés, ou tu le vis peut-être pas du tout comme ça, je sais pas.
Si, ça me permet aussi de mesurer mon exil peut-être par rapport à d'autres. Je vois quand je suis assis donc à une table ou Il y a des vieux Algériens, je sens quelque chose de, en même temps de très très lointain par rapport à moi. Mais j'aime bien, c'est peut-être ce qui manque un peu à Marseille, c'est des troisièmes lieux où le brassage puisse se faire. Et je ne vois pas, par exemple, j'aime bien me retrouver ici, mais j'aime bien aussi me retrouver dans d'autres cafés, au Cours Julien ou à La Plaine ou ailleurs, où je rencontre une autre population. J'aime bien ce va-et-vient entre ces mondes-là. Et c'est sûr qu'ici, je croise très peu de gens, c'est peut-être un peu dommage, du haut de la butte, là, de la plaine ou du cours Julien. Et réciproquement, c'est-à-dire je vois très peu de gens d'ici dans d'autres quartiers. Oui. Ça reste assez segmenté.
C'est ce faux brassage dénoncer de temps en temps quand on parle de Marseille en disant c'est une ville cosmopolite
Tout à fait,
et tout.
Il n'y a pas de brassage. Reste un peu dans son univers et dans son monde. Et moi, j'aime bien faire ces ponts-là. Je trouve que c'est chaque fois autre chose, quoi, et de différent.
Tu disais que tu as dessiné, on parlait des visages là, tu as dessiné des façades aussi, des coins de rue.
Ici là par exemple où on voit là où c'est inscrit la boulangerie pizzeria. On voit cette partie-là dans ce pays qui est le vôtre. La rue longue des Capucins, où je fais donc aussi mes courses. Il y a pas mal de visages que j'ai dessinés, les vendeurs de Marlboro ou les commerçants de fruits et légumes. Et toute cette rue-là, donc qui est le cœur de Marseille.
Oui.
J'aime bien dessiner ce que je vois aussi quotidiennement, même si c'est difficile puisqu'on ne le voit plus. On est dedans. Et peut-être que le fait de le représenter permet aussi de le voir mieux. Et puis d'avoir une certaine distance avec le fait qu'on soit tout le temps dedans, quoi.
Ouais. Et le fait de te poser aussi à une terrasse de café, au bout d'un moment, ton regard s'intéresse à ce qu'il y a autour. Tu es obligé de voir ces façades qu'on ne voit plus, finalement.
Tout à fait,
ces immeubles qu'on ne regarde plus.
Les habitants à leurs fenêtres ou la vie un peu quotidienne de tous les jours. Salut, Kama. J'aime beaucoup aussi les façades,
Je parle des façades parce que ça m'a frappé dans tes albums. Peut-être un parallèle d'ailleurs que je fais inconsciemment entre les façades, les visages et les façades des immeubles que tu fais peut-être aussi.
On peut faire un parallèle bien sûr entre les deux et deviner un peu ce qu'il y a derrière, la vie qui anime ces façades.
Oui. Quand est-ce que tu es arrivé ici? Parce que quand tu arrives à Marseille, c'était pas ton quartier, tu étais à Sainte-Marthe.
À Bassens, c'est dans le 15e Bassens. Arrondissement. Et quand je suis arrivé en 88, j'ai eu énormément de mal à comprendre un peu les Algériens, du centre-ville qui étaient très différents de ceux que j'ai connus dans les quartiers nord. Disons que dans les quartiers nord, très tôt, nous, on avait tourné un peu le dos au pays d'origine et à toute cette culture-là. Je pense que notre souhait profond, c'était de devenir comme n'importe qui, quoi. Et puis, nous avions honte à cette époque-là de tout ce qui nous renvoyait à nos origines. Alors que quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré des gosses, j'entendais des gosses dans la rue, tout ça, parler algérien. Je ne comprenais pas s'ils étaient venus récemment ou s'ils étaient nés ici.
Oui.
Mais en tout cas, j'ai trouvé dans le centre-ville quelque chose de beaucoup plus fort au niveau du lien avec le pays d'origine que la jeunesse ou les habitants dans les quartiers nord.
Et ça t'a troublé
ça m'a, oui, j'ai mis énormément de temps à m'adapter et à essayer de comprendre ces deux types de populations qui sont à la fois de la même origine et à la fois dans un lien très 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 différent. Alors peut-être que ça peut s'expliquer, je sais pas, l'ancrage dans les quartiers nord avec des lieux comme ça où les gens ont créé une histoire soit dans des lieux qu'on n'était pas, pour, dans le cas de la cité Bassens, et le besoin de s'ancrer dans un lieu, une histoire, un quartier, alors qu'ici on a l'impression justement aussi que les gens ne sont pas inscrits dans une vie de quartier, etc. Par exemple, je me souviens quand il y a eu les opérations là, un peu de déménagement du cours Belzunce, rue Tibano.
On peut y passer tout à l'heure, on est pas loin, hein, si tu veux.
Ouais. Là aussi, je découvrais que des gens avaient une histoire là, avaient toute une longue histoire là. Alors que pour moi et pour beaucoup de gens, c'était des lieux de transit. Mais non, malgré tout ça, ben oui, non, il y a des gens qui ont leur histoire et qui ont et quand on les a chassés, donc assez violemment, il y a eu comme ça de la violence et de la difficulté pour eux de se réinscrire dans un autre quartier. Ce que j'aime bien, disons, dans la ville et qu'on retrouve beaucoup aussi dans les dessins que j'ai faits pour tous les bouquins, il y a une thématique qui revient de l'errance, comme ça, le besoin de circuler dans la ville.
Oui.
Dans un labyrinthe où... chaque fois, c'est un personnage donc qui marche, et à travers lui, on rencontre à la fois des gens, des habitants, et à la fois donc on voit la ville avec ses façades, ses immeubles, comme à travers parfois dans Homicide, c'est un peu plus accentué, une espèce de labyrinthe dans lequel il se perd. Et d'ailleurs, la page de couverture, c'est lui-même un homme qui marche sur le toit des immeubles, comme s'il voulait sortir de cette ville qui le happe et qui voulait la dominer en marchant par-dessus le labyrinthe, donc sur les toits des maisons. Donc il y a souvent cette thématique qui revient de l'errance dans la ville.
Oui, mais là cette fois, tout à l'heure on parlait un peu de ces repères, de cette tranquillité que tu peux avoir en te posant dans ce quartier que tu connais bien. En même temps, tu mets tout de suite en parallèle l'errance dans la ville avec qui cache une certaine angoisse, une certaine crainte. Il y a ces deux parties-là d'ailleurs qu'on trouve dans tes albums aussi, à la fois une sorte de sérénité dans la façon dont tu poses les choses, ou même dont tu traces tes façades ou tes visages, et puis cette permanente déambulation un peu angoissée toujours.
Ouais. Alors on ne sait pas si il avance pour chercher quelque chose ou s'il avance pour fuir quelque chose, ou peut-être une simple déambulation qui me permet à moi, à travers la déambulation d'un personnage, de pouvoir aussi montrer quelques coins de la ville, mais qui sont en général, dès le premier livre Homicide, ce sont souvent des itinéraires un peu non pas clandestins, mais de personnages qui sont en même temps mal avec la ville. Donc c'est pas des itinéraires bien ciblés, on voit rarement la Canebière par exemple, ou des lieux trop identifiables.
Oui.
C'est plutôt des petites ruelles,
c'est sûr,
des
c'est
lieux
pas
qui sont
touristiques.
Voilà, des ruelles, des lieux comme ça, ou peut-être qui renvoient aussi à un labyrinthe intérieur, à une quête intérieure comme ça. Et en même temps qu'il y a cette déambulation, cette angoisse qui l'accompagne, il y a dans tous les livres aussi en même temps que ce thème-là, le thème de la chambre et du lieu de l'intime. Mmh. Donc quelque chose de paradoxal comme ça. À la fois le dehors avec quelque chose d'anonyme et à la fois le besoin d'un lieu où se retrouver. Et la chambre n'est pas la maison, c'est plus l'intimité. Mmh. Un lieu où on puisse être. On puisse être peut-être... qui rejoint la thématique du déplacé, de l'exilé,
oui,
qui
est permanente chez toi.
Qui est permanente, oui. À la fois dans ce besoin d'être quelque part, et à la fois le besoin comme ça de fluidité dans la ville. On retrouve ça dans tous les bouquins. Et ça, je me suis aperçu que beaucoup plus tard de ces thèmes récurrents, oui, qui reviennent, oui, comme ça. Oui. Oui. Et peut-être même, au-delà de tout ça, je considère aussi la bande dessinée comme moyen d'expression d'exil et de, puisqu'on passe d'une image à l'autre et chaque image comme un pas efface un autre, une image efface une autre et ainsi de suite, qui nous amène à un lieu ou à une fin. Et je considère la page comme un lieu aussi,
ouais,
un lieu où à la fois je puisse me promener et à la fois un lieu où je puisse être. Mm. Dès que je suis un petit peu moins peut-être maintenant, mais pendant très très longtemps, dès que je prenais une feuille, j'avais tendance par exemple à dessiner des intérieurs. Comme si la feuille par elle-même, j'étais dans quelque chose de l'intérieur.
Dans la chambre.
Ouais, dans la chambre.
Ouais.
Et il y a très peu de paysages ou de. Il y a donc souvent ce thème de l'intérieur. Ouais.
Ouais. Mais venons-en justement à ce dessin. On va continuer à marcher un peu,
ouais,
on va aller vers Belzunce.
Ouais.
À ce dessin, comme moyen d'expression, comment est-ce que c'est venu, à partir de quand tu as ressenti le besoin de transformer ce que tu faisais peut-être depuis toujours, dessiner, parce qu'en général, ça se passe comme ça,
ouais,
mais d'en faire un vrai mode d'expression, de t'en servir comme outil pour toi, pour construire ta vie. Comment c'est venu cette importance du dessin?
Je crois que ça, ouais, ben, ça a commencé très très tôt et j'avais fait vraiment un tout petit dessin qui c'est vraiment à partir de là que j'ai vu que j'avais un certain pouvoir sur les choses avec le dessin. Et c'était la seule chose qui me procurait ce statut-là, ce pouvoir-là, que je ne pouvais pas avoir ni avec le langage, puisqu'il m'avait fait défaut et que j'avais perdu aussi la parole pendant très longtemps à l'école, et que ça s'est un peu perduré par la suite.
À cause du changement de langue ou c'était
non, quelque chose, je crois,
plus du mutisme
par la timidité, et peut-être par quelque chose aussi d'affectif qui m'avait peut-être blessé, mais ça s'est produit à l'école, mais je pense que c'est venu un tout petit peu avant, c'est-à-dire dans ce voyage qu'on a fait entre Alger et Marseille, quand on est venu rejoindre mon père ici, qui était depuis quelques mois, donc qui était venu quelques mois avant nous. Et à ce moment-là, je ne l'ai plus retrouvé. Entre lui et moi, la parole s'était éteinte, et jusqu'à, disons, sa mort. Et ce rapport entre le texte et le dessin que j'ai découvert et développé beaucoup plus tard, donc à travers le biais de la bande dessinée, et peut-être que si j'aime la bande dessinée, si j'aime ce rapport très fort entre texte et dessin, peut-être que ça viendrait de là,
ouais,
entre ces mots absents,
oui,
entre mon père et moi, et ces images que moi j'ai inventées.
Et qui t'ont redonné du pouvoir, comme
voilà,
tu disais tout à l'heure.
Mais comme les images permettent de s'exprimer, mais n'amènent pas la parole. Mmh. Les images nous gardent dans un certain mutisme. Et voilà, c'est pour ça peut-être que j'aime beaucoup ce rapport très fort entre les deux.
Mais on va revenir à la parole et au texte tout à l'heure, parce que tu te diriges de plus en plus vers ça, mais restons encore un peu sur les premiers temps, je dirais. Ouais. Tu as commencé à dessiner... c'était quoi tes sujets de...
Ben, le premier sujet, c'était un arbre. Et donc, pendant très... Ouais, alors,
tu vois.
Disons un arbre qu'un enfant ne fait pas de cette manière-là, à cet âge-là, disons. Un arbre qu'on pourrait le dessiner un adulte assez bien. C'est-à-dire
ouais.
un arbre...
Tu avais quel âge, là ?
J'avais 7 ans. Et, ouais. et un arbre, c'est assez difficile, puisque... Il faut être capable de faire preuve d'abstraction pour dessiner des branches qui sont derrière des branches, qui sont cachées, etc. Ouais. Donc il y a aussi ce qu'on voit et ce qu'on invente, il y a aussi l'invisible. Donc. Et cet arbre-là, c'est l'ami qui était assis près de moi, qui l'a vu encore beaucoup plus que moi et qui m'a dit il faut le montrer à l'institutrice. Et c'est comme ça donc, que j'ai eu mon premier bon point. Mais pour moi, c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose. À partir de là, ma mémoire de dessinateur et ma vie en tant que dessinateur a commencé. Ça, oui. J'en ai pris conscience très très tôt.
C'est un vrai point de départ.
Vraiment, oui. Vraiment... Avant ça, tous les dessins que j'ai pu faire avant, j'ai aucune mémoire de ça. Voilà. Et puis, à partir de là, le dessin s'est renforcé aussi. Au fur et à mesure, et je développais ça parce que j'ai vu aussi que ça me donnait un certain pouvoir, quelque chose en plus que les autres élèves n'avaient pas. Ça aussi, je l'ai très vite mesuré. Et puis, dans toute ma vie, le dessin a toujours été présent dans des situations parfois assez catastrophiques ou assez périlleuses, comme ce que je raconte dans Ce pays qui est le vôtre, où à un moment donné, le personnage, pour prouver qu'il n'a rien à voir avec l'histoire dont on l'accuse, il raconte en cette petite vignette, dessinée très schématiquement, comment a eu lieu son arrestation. Et à ce moment-là, son avocate glisse en cour d'appel ce dessin-là sous les yeux des juges et le procès bascule complètement. En sa faveur, et donc il arrive à créer un doute et à ce que l'affaire soit remise complètement en question. Donc le dessin comme ça m'a toujours donné, m'a sorti pas mal de situations, que ce soit à l'école aussi beaucoup plus tard, et dans la vie. Je sais que sans le dessin, je ne serais rien, absolument rien.
Cet arbre, tu l'as dessiné, tu étais où à l'école là ?
C'était dans le 15e arrondissement, à l'école de la Vistation, une école primaire. Et d'ailleurs, qui beaucoup plus tard, ensuite, quand j'ai bossé dans les années 80, je suis retourné dans cette école primaire. J'ai un peu travaillé avec les élèves à cette époque-là et les instits. J'ai retrouvé aussi des vieux livres que je collectionnais à l'époque, que j'avais, disons, à l'époque, à l'école primaire. Et il y avait un illustrateur qui, des années 50, qui s'appelait Ray Lambert, et qui avait illustré beaucoup comme ça de livres pour enfants. Et à cette époque-là, je recopiais beaucoup ses dessins. Et chose que ces livres-là, j'ai retrouvé beaucoup plus tard. Et quand j'ai regardé les dessins donc, de ces livres-là que j'ai eu au CE1, CE2, et dans le choix aussi des dessins, c'est très parlant. Des choses que on peut se demander, en fait, est-ce qu'on change tant que ça, dans nos goûts et dans ce qu'on est profondément.
Tu as retrouvé déjà ce que,
oui,
ce
des
que
images
tu dessinais aujourd'hui,
que,
des images.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc le dessin, c'est comme ça enrichi au fur et à mesure pour que ça devienne ce que c'est devenu aujourd'hui, où entre le dessin et moi, il n'y a plus aucune distinction. Quoi. Je vis complètement avec et y a une fusion totale entre ce que je vis ici dans le quartier Noailles, entre le dessin, la vie, ce que je vois, ce que je dessine, tout ça fait partie d'une même chose.
Ouais. Ça fait ton unité.
Voilà. Et donc il y a dans ce que j'ai trouvé aussi dans la bande dessinée, en dehors de ce rapport entre le texte et le dessin, c'est aussi un lieu où on puisse mettre un peu quelque chose qui ressemble à ce quartier, c'est-à-dire à tout et n'importe quoi. Hein. On peut passer du poisson aux légumes avec des visages de toutes les couleurs. Et j'aime bien ce rapport à la technique de mélange comme ça pour arriver à quelque chose qui soit assez unique dans la composition des différents éléments du paysage visuel ou sinon dans les techniques que j'emploie et que j'essaye de développer de plus en plus pour arriver à des images qui peut-être, ou je l'espère, en tout cas, pas seulement de l'extérieur, comme on a tendance à le faire de Marseille, dans cette idée de mélange, mais à quelque chose qui soit comme ça très imbriqué pour former peut-être une seule chose.
Ouais. Tu mélanges donc les techniques, on le voit sans le distinguer vraiment quand on n'est pas spécialiste, mais on voit bien que les dessins ne sont pas uniformes dans la manière dont ils sont composés, ni dans les traits, ni dans la matière. Mmh. Tu essayes de mélanger aussi ces...
Oui, toutes ces techniques-là. Disons, pendant 10 ans, j'étais assez fermé au mélange des techniques et peut-être aussi quelque chose qui, en moi, bloquait peut-être. Ouais. Mais pendant 10 ans, je ne sais pas, j'ai eu peut-être besoin aussi de passer par là, mais pendant 10 ans, j'ai uniquement dessiné au fusain et des combinaisons de fusains. Je suis resté enfermé dans cette technique-là. Peut-être qu'à travers cette technique-là, m'ont renvoyé peut-être à cette histoire d'arbre, puisque le fusain, c'est ce qui reste de l'arbre quand il est calciné, et qu'avec cet objet mort, dessiner la vie. Avec paradoxalement avec quelque chose qui est mort quoi et qui ne donne plus de fruits. Ouais.
On va marcher un petit peu jusqu'à Belzunce.
Ouais.
Là, on a changé. On n'a pas fait beaucoup de pas.
On a juste traversé
la Canebière.
On passe d'un monde à un autre.
Oui. Et tu viens aussi te promener par ici.
Oui, beaucoup. Et surtout dans les années 70 et beaucoup plus dans les années 80. Là. Donc la Rétibano était un peu le lieu pour les jeunes des quartiers nord, incontournable, à la fois pour les femmes et à la fois pour les bistrots. Où on venait souvent avec les copains de la cité boire des coups ici.
Ouais.
Et j'ai vu donc aussi toute la transformation.
Ça a beaucoup changé là.
Radicalement. Ouais. Radicalement.
Alors on entend des travaux, ça continue.
Ouais, y a des travaux un peu partout là. Et on voit dans Homicide la première page et la dernière page. C'est rue Poix de la Farine, donc c'est la rue parallèle à la rue Tubano, juste un peu avant là. On voit ce dans Homicide, donc ma première bande dessinée. Ce qu'on voit là, en dessous de l'hôtel Triomphe, la mosquée là.
Oui.
Avant c'était un bistrot. Et on voit que le bistrot s'est transformé avec l'évolution du quartier et qui est devenu donc une mosquée.
Une mosquée.
Ouais.
Mais c'est toujours un lieu de rencontre pour presque peut-être pour les mêmes personnes.
Tout à fait, ouais. Une rencontre avec Dieu. donc ouais, j'ai bien connu la Rétibano et comment ça s'est dégringolé vers la fin. C'était quand même un quartier, une rue assez dangereuse et très difficile. Hein.
Oui.
Et Et puis avec le changement, tout ça, il y a eu aussi une des premières galeries qui, une des galeries qui m'a la première, disons, présenté mes dessins, qui est la galerie Mourlot, ouais.
Oui.
Et donc où j'ai fait quelques expos dans cette galerie, revenir dans ce quartier, mais par le biais du dessin.
Ouais.
On peut vivre tout ça à la fois, il n'y a aucun problème. Plusieurs vies en une.
Et là, est-ce que justement sous ces transformations, est-ce que malgré tout, même s'il y a eu beaucoup de changements et qu'il y a des gens qui ont été chassés, qu'il y a des endroits qui ont complètement été modifiés dans leur fonction, est-ce que quand même il y a ces strates-là, est-ce que tu les sens toujours? Est-ce qu'il y a encore cette présence
Très difficile. Hein. Tout a été complètement nettoyé. On a du mal à imaginer la vie qui a eu lieu dans les années 80. Hein. C'est pratiquement impossible. Il reste la gargote là, juste ici près de l'angle. Et le petit resto, sinon tout a été transformé. Hein. Les habitants ont disparu, l'ancienne population. Il reste pas grand-chose de ce monde-là.
Et toi, tu as pu retrouver dans tes dessins, tu as pu essayer de reconstituer
Par souvenir. Et les lieux, les façades sont toujours les mêmes, elles ont été nettoyées. Tous les hôtels qui étaient dans cette rue-là ont disparu. Il y avait un hammam aussi. J'évoquais ça dans une petite histoire pour Marseille Hebdo. Ça s'appelait « Sur la ligne du 81 », en hommage à cette partie-là de ma vie et un clin d'œil aux copains des cités où le personnage dans cette histoire-là... Le matin, au lieu de se raser, il hésite. Et puis, parce que près du miroir, il y a une petite photo où il est présent avec quatre amis à lui, donc de la cité. Et il évoque cette photo. C'était une photo qui avait été prise ici sur le cours Belzunce. Et le photographe dit comme ça, le plus bel endroit du monde.
Ouais.
C'était le slogan il y a très longtemps. Mais pour souligner aussi que pour ces... c'était une journée où on avait vécu tout ce qui pouvait être vécu par quelqu'un. C'était une journée vraiment formidable. Et avec ces quatre copains là, on avait les poches bourrées de fric, et on voit qu'à travers eux, le seul endroit dans cette ville où ils se retrouvent, c'est ici,
c'est ici.
C'est le cours Belzunce, ouais. et la Ritibano. Donc c'est aussi pour eux le seul repère qu'ils ont. Le reste, c'est complètement le vide total.
Ouais. Ouais. Ouais.
Et c'est ici qu'ils vont venir dépenser leur fric. Quoi. Mmh.
Mais le vide, on a pu reprocher d'ailleurs à cette rue Tubano après l'installation des galeries et tout, que finalement ça avait créé du vide. On a essayé d'installer une nouvelle vie de manière forcée, une nouvelle façon de voir la ville. Et on a beaucoup reproché à ce quartier d'être devenu justement un lieu un peu mort et un peu vide.
Oui, bien sûr, oui. Ça a été notre population qui est venue chercher de la tranquillité. La violence de la réhabilitation et de ces opérations tiroirs où on invitait l'ancienne population. Disons que les premières années, un peu comme au panier, hein, entre l'ancienne population, en particulier les jeunes, et la nouvelle, il y a eu quand même des agressions, ça s'est manifesté assez violemment entre les deux populations, parce que les jeunes reprochaient à la nouvelle population de les avoir tout simplement chassés, quoi. Un peu comme on a fait au panier, hein, virer une population pour en mettre une autre, faire venir une autre. Ça a toujours été la préoccupation des politiques, hein, de toujours de renouveler ce centre-ville qu'on a laissé à l'abandon pendant très très longtemps. Et ça a commencé avec la rue d'Aix, le quartier des Carmes, sous Gaston de Fer, hein, où on a viré une population, on voulait faire venir des classes moyennes, des couples soi-disant avec un ou deux enfants, etc. Mais je crois qu'une ville se transforme bien sûr plus vite qu'un humain, et je crois qu'elle se transforme un petit peu par la volonté politique et surtout par elle-même. Surtout une ville comme, et certains quartiers qui sont presque, disons qu'ils échappent à l'autorité politique, comme le quartier de Noailles et le quartier de, à l'époque ici où...
Une rencontre de plus, hein, on croise beaucoup. Voilà. Enfin, tu croises beaucoup de visages connus.
Ouais. Ben c'est le galeriste Olivier.
Oui.
Ouais.
On parlait tout à l'heure de ce pays qui est le vôtre. Tu parlais tout à l'heure de cet album important pour toi. Mm-hmm. Moi, je voulais qu'on aborde justement ce rapport texte-dessin que tu as déjà évoqué. En te posant cette question sur la place quand même de plus en plus importante que tu accordes au texte, que tu fais toi-même maintenant, parce que tu as beaucoup travaillé avec Nabil Fares, ouais. avec d'autres ouais. pour des textes. Ouais. Tu as aussi fait des petits récits dessinés avec ton propre texte. Mais là, ouais. tu es passé à une envergure, je dirais, plus grande où...
ça, je ne sais pas encore.
La place du texte, en tout cas, et de ton texte, est essentielle.
Oui, comme c'est le point de départ, donc j'y accorde énormément d'importance et je ne veux pas le réduire à une écriture comme en général en bande dessinée, qui est une écriture pas cinématographique, mais résumé...
Oui, une sorte de synopsis, quoi. Les dialogues dans les bulles,
ouais.
et puis une ou deux indications. Mm-hmm.
C'est souvent des textes donc qui, en même temps, se suffisent en eux-mêmes. Ils n'ont presque pas besoin d'illustrations, que ce soit les textes que j'ai écrits ou ceux de Nabil ou d'Amine. Donc, mm-hmm. ce sont aussi deux amis mm-hmm. qui ne viennent pas du tout du milieu de la bande dessinée. Donc il pose ces textes-là posent la question de la place des images et qui m'oblige à me poser cette question-là.
Ouais.
Et qu'est-ce que je peux faire comme image pour non pas illustrer ou répéter ce qui se dit ou rendre visible ce qui se dit, c'est plutôt la tendance en bande dessinée. Quand un dessinateur reçoit un scénario, il va rendre visible ce qui se dit, un peu comme aussi au théâtre.
Ouais.
Comment échapper à ça et comment inventer un jeu plus compliqué entre le muet et le dit et l'écrit, entre ce qu'on voit et l'invisible, entre les mots et les images. Un rapport beaucoup plus complexe et qui reste, à mon avis, dans le domaine de la bande dessinée, encore à inventer.
Oui.
Et donc, je suis très sensible au texte. Et comme c'est le point de départ, donc il faut que la base soit solide un peu pour que je puisse me permettre ensuite, à travers les images... De prendre de la distance et de me libérer. Et c'est dans ce jeu, dans ce rapport étroit entre les deux qui... c'est vrai que le dessin aussi est une écriture. Et on l'oublie maintenant, mais l'écriture aussi était dessinée autrefois. Moi, j'ai connu le porte-plume, comment dessiner les lettres, etc.
C'est le cas dans tes albums aussi, hein, où c'est dessiné, c'est écrit.
Alors,
mais...
Des fois, le texte il est écrit à la main, et des fois, il est dans ce pays qui est le vôtre. J'ai tenu à ce qu'il soit écrit à la machine pour dire que ces deux choses sont à la fois une même chose, même si au niveau de la forme, elles sont différentes. Donc j'ai tendance, par exemple, dans les autres bouquins, quand je bosse avec des amis, j'ai tendance à écrire leurs textes à la main et de les intégrer dans les images, comme si c'était... Alors, est-ce que c'est parce que quelque chose... C'est un texte qui me vient de l'extérieur et dans lequel je dois rentrer, et que j'intègre ensuite dans mes images en le réécrivant à la main, et le fait que ce soit le mien dans ce pays qui est le vôtre, j'ai dû l'exclure doublé, comme ça à travers l'écriture de la machine. Mais en même temps, pour dire que c'est une même chose, même si la forme est différente. Et on sait qu'il y a des auteurs de BD qui écrivent et qui dessinent avec le même outil, par exemple, où il y a un rapport très fort d'écriture entre texte et image. Mais en même temps, bien sûr, les images sont des fois au-delà des mots. Hein, c'est aussi ça leur force. Et peut-être quelque chose de beaucoup plus grégaire, comme disait Freud, que les mots. Nous avons d'abord les images et ensuite les mots. Et quelque chose donc aussi qui échappe aux mots, peut-être comme disait quelqu'un, il faut taire. Est-ce qu'il faut taire ce qu'on ne peut pas dire? Ça, j'en suis pas sûr. On peut en tout cas, l'avantage d'un dessinateur, c'est le retranscrire autrement ou simplement par une matière ou par une matière, par exemple, parfois qui ont dit beaucoup plus que n'importe quel mot ou dans un dessin narratif.
Oui. Tout à l'heure, tu évoquais ces façades et cette histoire qui s'efface d'une certaine manière, toujours présente, mais en particulier dans le quartier où on est, là, qui disparaît aussi. Ça m'évoque aussi une certaine façon de traiter le dessin que tu utilises assez souvent pour les visages en particulier qui sont dans une matière qui semble comme diluée parfois, qui s'efface aussi. Les mots aussi semblent, alors ils sont présents, ils sont inscrits, mais en même temps il y a beaucoup de respiration, beaucoup d'espace entre ces mots, comme si là aussi il y avait une sorte d'effacement. Ça se construit et en même temps ça s'efface.
Ouais, c'est peut-être plus accentué encore dans ce pays qu'est le vôtre. Et dans ce côté d'effacer les choses, à la fois de les inscrire et à la fois de non pas de les nier, mais quelque part de les rendre presque fantomatiques comme ça. Peut-être que c'est dû aussi, entre autres, à l'histoire même, c'est-à-dire au besoin peut-être d'effacer aussi cette histoire en moi.
Ouais.
Cette histoire qui a été douloureuse, que je raconte dans ce pays qui est le vôtre. Et ça, je me suis rendu compte qu'à la fin, avec cet effacement, comme si je voulais dire par là que cette histoire-là, il fallait qu'elle passe et que j'y revienne plus, quoi. Qui est à la fois la mienne et pas la mienne, puisqu'elle m'est venue de l'extérieur. Et j'ai dû faire avec. Et ensuite, au tout début, c'est de dire non, c'est pas mon histoire. Il m'a fallu très très longtemps, plus de 10 ans, avant d'avoir eu le courage de la raconter. Et de la raconter aussi d'une certaine manière, puisque entre ce que j'ai vécu et ce que je raconte, bien sûr, c'est pas la même chose. Ce qu'on raconte, c'est toujours réinventé. Hein. Il faut passer par, il faut repasser par soi, un autre moi en tout cas, pour rendre les choses de l'ordre du vécu, pour que ça puisse se transformer et que le lecteur puisse aussi l'accepter et le lire. On ne peut pas prendre le réel comme un bloc et le retranscrire. Le retranscrire comme il est, mais même comme ça, il y a toujours une part de soi dans cette transformation et dans cette transcription. Dans les textes aussi, il y a ce côté-là de dire à la fois les choses ou plutôt de les suggérer. J'ai peut-être cette difficulté, même là, dans le langage, de nommer et de dire les choses. Et parfois même, j'ai énormément de réticence, qu'on retrouve aussi dans le dessin, où cette difficulté parfois de fixer les choses. De fixer les choses parce que il faut laisser, je crois, du vide. C'est ce que disent aussi les romanciers dans un texte, dans des images, et parfois dans des images ou dans des peintures. parfois c'est cette difficulté-là à remplir les espaces qui devient presque intéressant chez certains peintres. Ou quand on voit par exemple j'avais vu une rétrospective des peintures de Nicolas de Staël à la Fondation Maigle. On voit ces couches de peinture au tout début quand il commence à peindre, très épaisses, et à la fin c'est vide ouais. À la fin comme ça, où il est incapable de les remplir. C'est aussi le vide dans lequel il se retrouvait là, et qui l'angoissait, et dont il s'est suicidé, quoi. Mais en tout cas il faut laisser ce vide pour que l'imaginaire du lecteur puisse se développer, et que le lecteur puisse y mettre à la fois son imaginaire et peut-être aussi son vécu, et peut-être par là à ce que cette histoire devienne aussi la sienne, d'une manière presque intime.
Ouais. Et pour les autres, je sais que tu lis d'autres bandes dessinées, tu t'y intéresses. Est-ce que justement ça te semble pas manquer dans une grande part de la production de la bande dessinée aujourd'hui, cet espace qu'on accorde aux lecteurs, comme si ces récits étaient trop parfaits, trop pleins, même quand il s'agit de récits personnels, puisque ça c'est des choses qui sont de plus en plus présentes dans la bande dessinée aujourd'hui.
L'autobiographie, les autofictions,
ce genre de choses.
Disons que d'une manière, sans parler de cette bande dessinée-là, quand on regarde une bande dessinée, je trouve que c'est une planche de BD, c'est très brouillant. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses visuelles et sonores à la fois. Il y a beaucoup de mots, il y a peut-être trop d'images même. Et il y a quelque chose du silence qui est comme ça exclu.
Ouais.
Déjà de par ce bruit, ce trop de choses fait que moi je me retrouve pas là-dedans, et je m'éloigne de plus en plus de la bande dessinée, et ça a commencé depuis très longtemps, quand j'ai commencé à en faire, en fait, depuis le début des années 90. Mais bon, je suis quand même de temps en temps, je regarde ce qui se fait, je suis quand même toujours un peu les nouveautés, etc. Disons que d'une manière générale, il y a des très belles choses, mais je reste, disons, assez frustré. Par rapport à la fois au texte qu'on retrouve dans la bande dessinée, et à la fois à un dessin qui définit trop les choses, et on sait que les choses qui sont trop définies, on n'y revient plus, parce que il n'y a pas ce vide, justement, ces espaces qui nous permettent de revenir et à chaque fois de les remplir de ce qu'on est devenu, de ce qu'on est au fil du temps, quoi. Et c'est peut-être aussi ça qui me fait peur. J'ai peur qu'un livre, quand il est trop rempli, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de le jeter et de l'oublier. Je pense que ces espaces-là de vide sont très très importants, qu'on peut retrouver aussi dans une ville, par exemple. Hein. On a toujours conçu les villes par le plein, hein, par le rajout, et jamais par le vide, c'est-à-dire en enlevant. J'ai appris comme ça aussi dans des ateliers avec des enfants à travailler par exemple avec une gomme et enlever de la matière pour dessiner. Ça change complètement le rapport aux choses et au monde, puisqu'on nous apprend toujours et la vie est une accumulation d'expériences et de choses. Comment apprendre à effacer et à laisser comme ça des espaces vides.
Marseille est idéal pour ça. Il reste encore des terrains vagues et des espaces vides, même si ça change là aussi. On essaie de remplir de plus en plus.
Ouais, mais de moins en moins, hein, surtout dans le centre-ville, des espaces vides, on voit qu'ils sont avec les promoteurs immobiliers, etc. Il y a de moins en moins d'espaces comme ça. Hein. J'ai bossé pendant longtemps sur un terrain d'aventure et les terrains d'aventure, c'était donc des lieux entre les jardins publics et les terrains vagues. On a vu comment, autour de la cité Bassens, les terrains vagues comment ont disparu au fur et à mesure au détriment d'un paysage industriel qui, du jour au lendemain, est apparu comme ça et qui a fait violence aussi dans, à la fois visuellement dans l'espace vital du jeu et l'espace de vie aussi. Et donc il y a eu comme ça de la violence qui a été générée par ces nouveaux espaces industrialisés.
Oui. Kamel, merci. On va essayer de rester sur ces espaces de vide qu'on va essayer de retrouver, en tout cas qu'on peut retrouver avec tes albums. Le prochain,
Alors, il y en a un qui est terminé, qui s'appelle « La jeune femme et la mort ». Et c'est sur un texte à nouveau de Nabil Fares qui parle de là-bas et un peu aussi d'ici. Voilà. Notre difficulté d'entendre ce qui nous vient de là-bas.
Une autre déambulation.
Voilà. Et puis, voilà, il y a d'autres projets.
Il y a d'autres. Voilà. Merci, Kamel.
Merci. Merci, Pascal.
Con toda palabra, con toda sonrisa.
Voilà, ainsi s'achève cette promenade avec Kamel Khelif dans les quartiers de Noailles et Belzunce. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références des ouvrages que nous avons cités sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org. Prochaine émission au mois de juillet, ce sera plus exactement une série d'émissions à l'air livre spécial Fille de Marseille du 2 au 7 juillet avec des horaires exceptionnels, une durée exceptionnelle aussi, 30 minutes à chaque fois. Les émissions auront lieu quotidiennement à 13h tous les jours, comme en 2007, cette série d'entretiens enregistrée au Festival Cinéma Fille de Marseille ou sur le Vieux-Port établira des conversations avec des invités qui sont en lien avec le cinéma et la littérature pour voir quels rapprochements, quelles histoires personnelles ils effectuent pour les invités de cette série spéciale, donc entre ces mondes, littérature et cinéma, écrit et écran. Parmi les invités, il y aura Tony Negri, il y aura Marianne Alphand et beaucoup d'autres, 6 émissions donc en tout, du 2 au 7 juillet 2008. À très bientôt, merci.
Con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara.